Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la maladie de Lyme, maladie protéiforme dont le diagnostic est compliqué et du coup le traitement aléatoire et parfois mal ciblé. Après les États-Unis, la France promet un plan national de lutte contre la maladie qui devrait être opérationnel d'ici l'été prochain. Des centres régionaux spécialisés devraient voir le jour, ainsi qu'un protocole national de diagnostic et de soins. Ces annonces clarifient un peu une vive controverse scientifique sur la maladie de Lyme, potentiellement très dangereuse. Le corps médical est divisé entre orthodoxes et hétérodoxes. Les associations de malades sont-elles exaspérées? Pour quelles raisons? On ouvre le débat ce soir dans le Téléphone Sonne.
Nicolas Demorand, le Téléphone Sonne.
Trois moyens pour nous joindre. Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr et le standard 01 45 24 7000. Vous êtes extrêmement nombreux ce soir au Téléphone Sonne. Bonsoir Christian.
Allô? Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
D'accord, merci, bonsoir à tous. Oui, donc moi, mon témoignage, ce serait que j'ai été piqué en septembre dernier, juste à l'issue, à l'occasion d'une balade en forêt. Donc je m'en suis aperçu dans les 24 heures. C'est un petit peu délicat pour ôter la tique, donc ça m'a un peu inquiété. Je suis allé voir mon médecin généraliste qui m'a dit qu'il était un peu tôt. En fait, je suis allé le voir tout de suite pour faire un traitement. C'est inutile s'il n'y avait pas d'érythème, donc une plaque rouge, je crois, qui est sur le corps. Mais que cette plaque rouge, ce qui m'a un peu étonné, c'est que cette plaque rouge apparemment peut apparaître à un autre endroit du corps, donc pas forcément là où était la tique, d'une part, et puis ensuite ça peut, dans le temps, ça peut être dans les 2 mois qui viennent, dans les 2 ans qui viennent, ça peut être en fait donc ailleurs sur le corps, et puis sans limite de temps apparemment. Donc j'ai trouvé ça étonnant, je fais confiance à mon médecin, moi je trouve un petit peu étonnant. Je suis allé sur Internet et puis là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, ce que j'ignorais totalement, beaucoup de versions différentes. Donc, c'est un peu inquiétant quand on est patient, on ne sait pas trop quoi faire. J'ai entendu également, je crois que c'est sur France Inter, d'ailleurs, il y a peu de temps, une émission sur un peu sur le même thème, donc c'était un peu le même constat.
Et est-ce qu'un diagnostic a été fait aujourd'hui pour vous, Christian, ou pas?
Comment?
Est-ce qu'un diagnostic a été fait pour vous, alors? Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui?
Je ne savais pas du tout qu'il n'y a pas en place. Ce que m'a dit mon médecin, c'est d'attendre, de rien faire s'il n'y avait pas de plaque rouge sur le corps en fait qui apparaissait.
Bon, alors restez en ligne, restez en ligne. On va faire le diagnostic en direct ici au Téléphone Sonne. Permettez-moi, Christian, de vous présenter nos invités. Professeur Christian Perron, bonsoir.
Bonsoir.
Chef de service en infectiologie à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, auteur de La vérité sur la maladie de Lyme, publiée chez Odile Jacob. Professeur François Bricaire, bonsoir.
Bonsoir.
Chef du service maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et Véronique Julia, bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Spécialiste santé à France Inter. Que pouvez-vous dire, messieurs, à notre auditeur? Vous voulez commencer, François Bricaire?
Ben écoutez, je crois qu'il y a déjà un certain nombre de points qui ont été évoqués par cet auditeur. Le premier point, c'est que la morsure de tique peut éventuellement transmettre des Borrelia responsables de la maladie de Lyme, mais ça n'est pas automatique, et loin de là. Deuxièmement, que quand on n'a pas de symptômes et qu'il ne se passe rien, son médecin qu'il a consulté a parfaitement raison et qu'il ne faut rien faire. Troisièmement, que l'érythème migrant, cette manifestation cutanée qui est en général la première à apparaître, peut apparaître dans le temps de façon variable, mais enfin pas non plus jusqu'à des mois et des années. Et effectivement, si dans la majorité des cas, le premier érythème migrant apparaît là où la tique a mordu, car une tique mord et ne pique pas, et il peut y avoir parfois effectivement des lésions ailleurs. Et donc, à ce moment-là, eh ben, c'est très simple, il faut donner un traitement. Il n'y a même pas besoin de faire de test sérologique. On a un érythème migrant, ça signe la maladie de Lyme, et on donne le traitement antibiotique pendant la bonne durée, à la bonne dose, et ça régresse.
Christian Perron.
Moi, je suis d'accord avec cette analyse. Le seul problème, c'est que quand on regarde les statistiques dans les publications scientifiques, il y a seulement un quart des gens qui se souviennent de la piqûre de tique et la moitié des gens n'ont pas l'érythème migrant. C'est là où ça peut poser problème quand après vont se développer des signes anormaux dans le corps, à droite à gauche, plusieurs semaines, mois, voire plus tard dans l'évolution.
Christian, vous êtes toujours en ligne avec nous?
Oui.
Est-ce que vous avez eu des symptômes et à défaut de symptômes, une réponse à votre question?
Alors, aucun symptôme. Ce que je demande par rapport, j'ai une précision par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est s'il y a un érythème, donc sur l'endroit où on a été mordu, ça peut être un premier signe, un symptôme. Mais est-ce que par érythème, donc on entend bien une plaque un petit peu étendue, parce que pour ma part, il y a pas de plaque. En revanche, je vois bien l'endroit où j'ai été piqué, c'est comme une piqûre un petit peu de guêpe ou autre chose qui reste, en fait. La trace est vraiment visible.
La trace est visible, mais il n'y a pas de plaque, hein. Alors, François Briquet va vous répondre.
Oui, alors, il faut bien distinguer la réaction à la morsure de tique qui va donner, comme quand il y a une piqûre, une morsure d'insecte, une réaction inflammatoire très précoce. Mais ça, c'est pas un signe de maladie de Lyme. L'érythème migrant, il n'apparaît que de façon retardée par rapport à la morsure. Donc, il peut y avoir une trace, etc. Mais il y a un délai.
Véronique Julia, pardon.
Oui, je lisais sur un site parce qu'il y a énormément de sites hein, de malades qui parlent de ce qu'ils constatent. Parfois, on voit la piqûre, mais on ne voit pas la tache rouge autour. Est-ce à dire que dans certains cas, il y a quand même Lyme?
Bien sûr, parce que Christian on la Perron. Voit dans les études, alors ça peut varier de 1/4 à 3/4, mais en moyenne, à peu près une fois sur deux, il n'y a pas cette tache rouge qui apparaît, ou quelquefois elle peut apparaître, mais c'est les petites, parce qu'il y a des taches rouges qui font la taille d'une pièce de 2 €. Si vous l'avez dans les cheveux ou dans le dos, vous ne la voyez pas. Et donc, les signes de la maladie de Lyme vont apparaître plusieurs semaines, plusieurs mois après, sans qu'on le sache. Et ça, c'est un problème, parce que quand on voit la tache rouge, on peut courir voir son médecin pour demander un antibiotique, mais quand on ne l'a pas, on ne sait pas.
Mais est-ce à dire que si on n'a pas la tache rouge, il faut quand même prendre des antibiotiques?
Normalement, non. Dans la recommandation, on ne le dit pas, parce que sinon, on traiterait toutes les piqûres de tique, ce qui n'est pas recommandé. Mais il faut alerter les personnes qui ont été piquées par une tique, ou que s'il y a des signes un petit peu anormaux qui se développent plus tard, de penser à retourner voir leur médecin pour faire un bilan de santé globale.
Juliette, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Vous avez la parole.
Oui, je vous remercie et je voulais surtout remercier d'ores et déjà Dr Perron pour tout ce qu'il fait concernant la maladie de Lyme. Alors voilà, ma fille est atteinte de la maladie de Lyme depuis plusieurs années. Elle a aujourd'hui 35 ans, elle a été diagnostiquée simplement il y a quelque temps. En fait, elle a été suivie de cohorte, mise dans une cohorte de recherche clinique sur les spondylarthrites indifférenciées, soi-disant spondylarthrite ankylosante. Elle a été trimballée, de service en service, d'hôpital en hôpital, sans que jamais ça ne soit vraiment diagnostiqué. Je voudrais souligner le déni dans lequel on s'est trouvé, la souffrance de ma fille, la souffrance des parents, de la famille, des proches, les tests qui ont été faits, mais ça je crois que ça a déjà été abordé peut-être, les tests qui n'étaient pas fiables, et puis le deuxième test qui a été en fait positif. Et je voudrais vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui, les autorités de santé essaient de mettre en place un plan national, et l'on voudrait savoir comment vont se passer effectivement la mise en place de ces centres au niveau national, public. Est-ce qu'il y aura vraiment les moyens de le faire? Et vont-ils fonctionner s'ils sont assurés par des médecins hospitaliers?
Merci Juliette pour cette question. Restez en ligne, Juliette, la parole à Christian Perron.
Oui, alors effectivement, il y a des problèmes avec des diagnostics chez beaucoup de malades. Et j'ai écrit ce livre parce que j'ai vu depuis 20 ans, quoi, c'est 20 ans de ma vie, 20 ans de la vie de mes malades, beaucoup de patients en souffrance parce qu'il n'y avait pas de test diagnostique fiable et pas de traitement fiable proposé, ou des traitements très courts qui n'étaient pas efficaces. Maintenant, j'ai un recul sur des milliers de malades. Donc effectivement, la maladie de Lyme peut simuler des maladies dites auto-immunes. Alors auto-immunes, dans le jargon médical, ça veut dire des maladies où le système immunitaire se retourne un peu contre l'organisme parce qu'on ne sait pas trop pourquoi il y a une réaction inflammatoire. Alors, il y a des vraies maladies auto-immunes, mais dans certains cas, la maladie de Lyme peut simuler. Alors, elle a parlé de la spondylarthrite, mais ça peut être la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, le lupus. Alors, je dis pas que tous les lupus et tout ça sont des maladies de Lyme, mais un certain pourcentage en sont vraiment. Ça donne les mêmes signes. Et comme les tests diagnostiques actuels basés sur la recherche des anticorps dans le sang, qu'on appelle la sérologie dans le jargon médical, malheureusement...
Ils ne sont pas fiables à 100%?
Ce n'est pas fiable du tout. C'est maintenant reconnu au niveau officiel, puisque le CDC européen, qui est le Centre de contrôle des maladies à Stockholm, qui a publié un rapport au mois d'avril, dit bien que même si les fabricants de tests disent que les tests sont très bons, ils disent en toutes lettres que tous ces tests sont calibrés sur des populations de patients témoins très mal définis, qu'il faut faire très attention avant de conclure et que les conclusions de ces tests devraient être confrontées aux données de la clinique.
Donc on n'a pas l'outil.
Dans un cas sur deux, c'est pas
très souvent, il n'y a pas de chiffre très précis. Et il faudrait vraiment pouvoir isoler directement les bactéries responsables de ces maladies. Alors, il y a la boréale, la maladie de Lyme, mais on sait qu'il y en a d'autres. Il y a même des parasites. Et ce qui est un petit peu idiot aujourd'hui, c'est qu'il y a des laboratoires vétérinaires qui sont capables de les isoler. Mais il faudrait que, de façon tout à fait scientifique, avec le contrôle des autorités, on puisse transférer ces techniques diagnostiques chez les humains. Puisque pour l'instant, malheureusement, il y a des milliers de personnes en France, et quand on regarde à l'échelon du monde, c'est des millions qui sont en errance, rejetés par le système de santé, parce qu'on ne comprend pas leurs souffrances. C'est des souffrances extrêmes, des douleurs horribles, des gens qui se trouvent en fauteuil roulant, il y a des gens qui se suicident, et on leur dit que c'est dans la tête qu'ils sont fous, on les envoie en psychiatrie. Donc je crois qu'il faut vraiment que ce déni s'arrête un jour. Et je remercie les autorités de santé de reconnaître qu'il y a un problème et qu'on va pouvoir avancer pour avancer de façon scientifique avec de la bonne recherche.
François Bricaire, êtes-vous d'accord avec tout ce que vient de dire Christian Perron ?
Non, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vient de dire Christian Perron. Il y a effectivement, c'est vrai, un problème qui est un gros problème de santé publique, puisque il y a des gens qui se manifestent comme ayant des symptômes et qu'ils pensent que ces symptômes sont rattachables ou rattachés à la maladie de Lyme. Ça, c'est la première remarque. Et dans cet ordre, moi, je tiens quand même à rappeler que la maladie de Lyme est parfaitement définie, on l'a évoqué déjà dans la première partie. Elle se manifeste ensuite par des signes objectifs qui sont des signes neurologiques, des signes articulaires. Et puis après, on rentre dans une difficulté plus grande, c'est vrai, et qui entraîne cette confusion dont a parlé Christian Perron. C'est-à-dire que c'est une maladie à composante immunitaire un peu difficile. Mais à partir de là, on tombe dans ce risque pour moi majeur, et qu'a décrit Christian Perron, c'est que les gens qui ont tous les symptômes possibles et imaginables, qui sont en général des symptômes beaucoup subjectifs, pensent avoir la maladie de Lyme, ils l'ont vu sur Internet, ils en sont persuadés, alors que les tests sérologiques, même s'ils ne sont pas parfaits, ne sont pas mauvais.
Ils sont très mauvais.
Non, ils ne sont pas très mauvais. Ils sont critiquables pour certains d'entre eux, et en tout cas, les tests internationalement reconnu, le test ELISA, le test Western Blot, permet de détecter une maladie de Lyme. Alors, certaines formes sont avec des tests négatifs, je viens en convenir, mais elles ne permettent pas de condamner définitivement les tests tels qu'ils sont proposés.
Christian Perron.
Ces tests ont été condamnés par le Centre européen de contrôle des maladies, ont été condamnés récemment par la loi Lyme aux États-Unis. Je vous rappelle que la loi Lyme a été votée et signée par le président Obama avant Noël. Et dans cette loi, il était écrit en toutes lettres que la sérologie n'est pas un test diagnostique fiable. Et même dans certains États des États-Unis, les médecins qui prescrivent un test de Lyme sont tenus, de par la loi, d'informer leur médecin que le test n'est pas fiable et que s'ils ont encore des symptômes, ils doivent revenir et s'inquiéter quand même. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui sur les données scientifiques. Tout ce que je dis, c'est publié, c'est des publications scientifiques de très haut niveau dans les meilleurs journaux. Et c'est reconnu dans les très grands journaux, des cohortes entières de patients on isole la bactérie Borrelia dans le sang ou dans d'autres tissus avec absence d'anticorps. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'anticorps, ils ne sont pas dépistés par les tests d'aujourd'hui.
On va aller au standard où Christian nous appelle de la région Centre. Bonsoir Christian.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Merci. Je suis fidèle de France Inter. J'ai déjà entendu des émissions au sujet de cette maladie. Et moi, ce que j'ai retenu de jadis, c'est que nos voisins allemands étaient plus avancés que nous dans le diagnostic de cette maladie. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer? Et d'autre part, il avait été dit à une époque que les assurances avaient joué de leur influence pour pas trop diagnostiquer ces maladies, pour faire des économies. Alors, moi, je pense qu'il faut essayer de sortir des querelles, des influences, des groupes influents pour avancer vraiment et écouter vraiment les gens qui ont une vraie expérience de ça et non pas ceux qui cherchent
Bien compris. Donc regardez, Christian, du côté de l'Allemagne, point d'interrogation, François Bricker, c'est mieux là-bas.
Il y a beaucoup de malades qui nous disent ou qui viennent avec des tests faits en Allemagne, considérant que l'Allemagne c'était beaucoup mieux qu'en France. À la vérité, il faut bien dire, premièrement, que les tests qui sont faits et reconnus par les autorités allemandes sont exactement les mêmes que ceux qui sont faits en France. Que deuxièmement, effectivement, comme dans l'Est de la France déjà, et davantage outre-Rhin, il y a davantage de maladies de Lyme, il y a des laboratoires qui font ou qui cherchent à mettre en place des tests qui veulent détecter plus, comme on dit, avec plus grande sensibilité la maladie, mais qui ne sont pas des tests reconnus. Et par conséquent, la validité de ces tests n'est pas, à mon avis, à retenir. Alors, j'en profite de vous dire, il ne sert à rien d'aller faire des tests outre-Rhin qui vous coûtent cher et qui ne permettent pas un meilleur diagnostic.
Christian Perron.
Je suis d'accord que ces tests ne sont pas parfaits. Simplement, en Allemagne, c'est vrai que la recommandation officielle est la même qu'en France, mais en Allemagne, une grande liberté. Chaque land est indépendant et beaucoup de laboratoires développent des tests plus sensibles qui ont été publiés dans des journaux scientifiques et de très bonnes bases scientifiques. Simplement, ils ne sont pas reconnus à l'échelon international. Mmh. Après, pour revenir sur ce que disait notre auditeur sur les compagnies d'assurance, il faut savoir qu'aux États-Unis, les compagnies d'assurance, quoi, tout le groupe de la société infectieuse de maladies infectieuses américaines qui avait fait les recommandations et qui interdisait aux compagnies d'assurance de rembourser, par exemple, certains tests ou des traitements de la 3 semaines. Ils ont été condamnés en justice, qu'on a montré que les experts qui avaient fait ces recommandations avaient des conflits d'intérêts majeurs avec les compagnies d'assurance. Et la loi américaine va corriger ça, fort heureusement.
Véronique Julia.
Mais j'ai envie de dire, un test, il trouve la bactérie ou il la trouve pas. Alors pourquoi on dit qu'il y a des tests fiables ou pas fiables? Si on trouve la bactérie, c'est que le test il a marché et qu'il y a la bactérie qu'on est porteur,
c'est
non
pour ça il y a des laboratoires, parce que malheureusement, les laboratoires de microbiologie médicale n'ont pas de test en routine. Les vétérinaires en ont. On peut isoler des bactéries responsables de ces syndromes dans les laboratoires, certains, pas tous, mais certains laboratoires vétérinaires. Donc ça existe. Et on peut isoler directement la bactérie, parce qu'il n'y a pas que la boréa, la maladie de Lyme, il y en a d'autres, il y a des bactéries associées. Et c'est la sérologie, c'est pas la recherche de la bactérie, c'est la recherche des anticorps qui n'est pas du tout au point. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on mette autour de la table les quelques laboratoires vétérinaires qui savent faire et qu'on leur demande quelles sont les meilleures techniques et qu'on puisse, sous le contrôle des autorités, il ne s'agit pas de faire ça comme ça de façon clandestine, de façon tout à fait officielle, qu'on puisse transférer cette technologie dans les laboratoires médicaux. Et ces tests existent déjà, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, ce serait une avancée exceptionnelle pour enfin sortir des malades de la case psychiatrie, vous êtes fous, vous êtes des malades imaginaires, où on ne se rend pas compte que des malades se suicident, sont dans des états, ont perdu leur boulot pendant 20 ans, c'est atroce quand on peut les guérir après, qu'ils retrouvent une vie normale, et qu'on ne me dise pas que c'est un effet placebo, un effet gourou. L'effet placebo, François Bricker le connaît bien, c'est 20% d'amélioration. Tous les médecins qui croient au Lyme chronique, qui le soignent dans le monde entier, il y en a des milliers, on a 80% de guérison, d'amélioration. Alors, on peut pas le publier dans des grands journaux parce que tout ça est malheureusement, on n'a pas le droit quand on est contre les recommandations officielles. Il y a quand même des publications qui l'ont montré. Et malheureusement, le groupe d'experts au niveau international qui a fait les recommandations a refusé de lire ces publications. Les recommandations actuelles ne sont pas basées sur des preuves scientifiques qui sont énormes, avec énormément de publications internationales dans des bons journaux scientifiques.
François Bricker, Lyme chronique, vient de dire Christian Perron. Vous acceptez l'expression et réalité ?
Il y a une phase qu'on appelle tertiaire, tardive de la maladie, que certains assimilent, probablement à mon avis à tort, au Lyme qui est dit chronique. Il faut bien considérer que dans ce qu'on fait entrer dans Lyme chronique, il y a tout un tas de manifestations, alors les troubles de mémoire, la fatigue, etc., qui n'ont absolument rien à voir de base avec la maladie de Lyme. Et moi, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est dangereux de faire croire à des malades que leurs symptômes peuvent être attachables à une maladie, à la maladie de Lyme, alors que peut-être il y a autre chose, un autre chose à chercher, et que ça n'est pas parce qu'on a mal au dos depuis 25 ans que automatiquement parce qu'on l'a lu sur Internet, c'est une maladie de Lyme. Et je pourrais vous multiplier les exemples. Le dernier malade que j'ai vu, juste un, il est venu me voir en me disant « j'ai une maladie de Lyme ». Bon, très bien, vous avez une maladie de Lyme, sur quels arguments et éléments vous, dites-vous ça? Il me dit « j'ai des troubles de l'érection ». Bon, écoutez, alors, on n'en finit pas. On n'en finit pas.
Mais est-ce que l'alternative passe entre ce que Christian Perron décrit, à savoir un sous-diagnostic, et ce que vous, vous décrivez, à savoir un surdiagnostic? C'est ça les termes du débat?
Un surdiagnostic, à mon avis, actuellement, sûrement. Moi, c'est mon opinion franche. Le diagnostic de maladie de Lyme repose sur des caractéristiques qui sont d'ordre, comme on dit, épidémiologique. Vous êtes-vous fait piquer, à quel endroit, etc. Deuxièmement, sur des arguments cliniques, et qui sont des arguments cliniques de départ objectifs. Et enfin, troisièmement, sur une analyse de la sérologie. Fut-elle critiquable? Les tests sont suffisamment intéressants pour qu'on puisse les interpréter dans ce contexte. C'est pas du tout un truc isolé qui doit être... Et avec cet ensemble, on dit oui, vous avez un Lyme, ou non, vous n'avez pas de Lyme.
Christian Perron, puis Véronique
Julia. Je peux répondre de façon tout à fait objective, parce qu'avec des collègues scientifiques européens, nous avons fait une étude en Europe sur à partir des taux d'infestation des tiques avec la Borrelia et à partir de la déclaration des érythèmes migrants. Et on peut estimer qu'il y a au minimum en Europe 1 million de nouveaux cas de maladies de Lyme dues à la souche strict Borrelia burgdorferi, parce qu'on sait qu'il y a des maladies de Lyme dues à d'autres souches de Borrelia. Et ça, c'est évalué sur des données scientifiques solides qui ne sont pas encore publiées et qui montrent que la sérologie est très loin de la réalité, qui a un sous-diagnostic absolument énorme, ce qui explique que un nombre incalculable en Europe et dans le monde, aux États-Unis, sont plongés dans l'enfer du déni, sont rejetés par le système médical. Et ça m'a fait plaisir quand la ministre a reconnu que énormément de monde était rejeté par le système médical, était en errance.
Mais quand le professeur Bricard dit sur-diagnostic, que répondez-vous?
Parce qu'il croit encore à des données, j'aime bien François Bricard, mais il croit encore à des données anciennes, qui datent du siècle dernier. On croyait que la sérologie était bonne. C'est un calibrage qui a été fait il y a 35 ans. Et comme on n'a jamais pu calibrer la sérologie de Lyme, ça a été fait de façon totalement arbitraire. C'est fait sur les donneurs de sang en bonne santé, faut le savoir. C'est pas fait sur les malades, le calibrage. On a mis un seuil à 5% pour qu'on dépiste jamais plus de 5% de gens, pour que ça reste toujours une maladie rare. C'est un fait, c'est publié. Qu'on me dise pas que c'est pas de la science. C'est vraiment publié dans des journaux scientifiques. Il y a eu une omerta là-dessus et je pense que maintenant il est temps de revenir sur ces tests qui sont malheureusement désastreux et qui plongent beaucoup de gens dans la souffrance terrible.
Je cherche à comprendre, hein, François Bricard, et certainement pas à entretenir de la polémique stérile, mais quand on entend omerta, quand on entend la vérité sur la maladie de Lyme, le titre du livre chez Odile Jacob, quelle est tout simplement votre position?
Écoutez, moi je crois que je
on
ne
a
vois
besoin
pas.
De croire en oui, la médecine. Oui. On a besoin de croire. Hein.
La maladie de Lyme est une maladie
le doute
infectieuse.
Est ravageur.
Hein, la maladie de Lyme est une maladie infectieuse. C'est une maladie infectieuse qui est due à un agent infectieux qui a été repéré. Les bactériologistes vous les décrivent, etc. En plus, c'est une bactérie parfaitement sensible aux antibiotiques. Donc moi, je ne connais pas de maladie infectieuse qui entraîne ce type de symptômes avec 30 ans, 40 ans de manifestations. Même la syphilis à laquelle on a comparé la maladie de Lyme parce que les bactéries se ressemblent un peu, ne donne pas ce genre de choses. Avec les antibiotiques, on les guérit. Donc, autrement dit, pourquoi est-ce que la maladie de Lyme serait la seule exception en maladie infectieuse? Alors, je veux bien être du siècle dernier, très bien, mais il n'empêche que la théorie du complot, la théorie de l'omerta, etc., moi, je ne la partage pas. Je pense qu'il faut rester sur des bases saines et que nous avons, encore une fois, un devoir vis-à-vis de nos malades qui consiste à leur donner un diagnostic et un traitement quand celui-ci existe et qu'on n'a pas le droit de leur faire croire qu'avec un cocktail thérapeutique plus ou moins valable, plus ou moins, et en tout cas non démontré scientifiquement, on va les améliorer.
Marie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir. Je vous appelle, voilà, j'ai un fils qui a été piqué il y a presque 10 ans maintenant et qui a été soigné aux antibiotiques. En fait, il a eu une méningite un mois après avoir été piqué. Donc, il a été soigné pour cette méningite et puis après, ils ont fait le rapprochement avec la piqûre de tic. Il a été soigné aux antibiotiques pendant un mois, un gros traitement. Donc, pour nous, il était guéri. Et puis, là, il semblerait qu'il y a des rechutes. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça rechute, mais que en fait, il ne serait pas guéri et qu'il pourrait avoir des signes qui réapparaîtraient.
Ça prend quelle forme, Marie ?
Non, mais là il n'a plus rien.
C'est au conditionnel.
Oui, c'est ça, oui. Mais vous dites ça reviendrait ?
Ah, alors, sous forme musculaire, articulaire, des douleurs, autour de 30 ans. Alors, est-ce que c'est des on-dit ou est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut dire qu'il a été guéri ? Parce que nous, on nous dit que c'est parce qu'il n'a pas été traité tout de suite et du coup, le traitement n'est pas assez efficace.
François Bricaire, puis Christian Perron, vous répondent. Marie, restez en ligne.
Oui, alors, la méningite qui survient au décours d'une morsure de tique et qui est due à la maladie de Lyme, ça c'est tout à fait dans la série de la maladie. Ce que je disais, c'est objectif. Une méningite, c'est quelque chose d'objectif. À partir du moment où on est traité convenablement avec le bon antibiotique, encore une fois, à la bonne dose, pendant la bonne durée, on guérit. Et je pense que ce jeune garçon est guéri. Alors après, on peut toujours imaginer tout ce qu'on veut en disant pourquoi ça recommencerait pas et pourquoi on n'aurait pas des manifestations articulaires.
Pour vous, il n'y a aucun doute. Ça n'a rien à voir avec la maladie de Lyme.
Là, dans le cas particulier, non.
Aucun doute.
Non.
Alors, moi, dans ce cas-là, je dirais comme la personne se plaint de rien. Je suis d'accord avec François Bricaire, mais d'un autre côté, on voit. C'est des choses qui ont été publiées aux États-Unis depuis 30 ans. En fait, les experts aux États-Unis, par analogie avec la syphilis, ont déclaré que tout était guéri au bout de 2-3 semaines. Mais très rapidement, des tas de médecins aux États-Unis ont vu l'inverse, que les malades n'étaient pas guéris après 3 semaines, beaucoup rechutaient. Et c'était largement prouvé. Dans tous les modèles d'études chez l'animal, chez la souris, le chien, le singe, chez l'homme, que même après même 3 mois d'antibiotiques, les borrélias sont encore là. Ce n'est pas du tout la syphilis. Elle se cache, elle change de forme. Et ça a été interdit de le dire aux États-Unis. Il y a eu vraiment un blocage là-dessus scientifique. Et maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Et il est clair que beaucoup de gens qui ont été traités selon le protocole officiel rechutent et peuvent rechuter rapidement ou plus longtemps après, mais c'est une évidence scientifique qui, maintenant, ne doit plus être remise en cause, puisque il y a la preuve dans tout ce qui est publié dans les plus grands journaux scientifiques. Donc, il faut que les gens achètent des lunettes et lisent ce qui est publié. On n'a plus le droit de dire ça aujourd'hui.
François Bricaire n'est pas d'accord. En tout cas, je le vois faire non de la tête. Non, il n'est pas d'accord.
Et pourtant, il a des lunettes.
J'ai des lunettes, je lis les publications internationales et je ne partage pas cette affirmation que tout est démontré scientifiquement. Tout est à démontrer scientifiquement en matière de prise en charge de la maladie de Lyme. On fait un certain nombre de suppositions, ça rechute, ça revient, on n'est pas complètement guéri, etc. Encore une fois, un bon traitement correctement guérit la maladie de Lyme. Qu'il y ait ensuite quelques difficultés sur des formes plus tardives et qu'à ce moment-là le traitement soit moins efficace, nous sommes tous d'accord. Mais dire que tout est réglé et que la théorie d'interdire que sur le plan scientifique aux États-Unis, en général aux États-Unis, on n'interdit pas grand-chose en matière de recherche et de science. Donc par conséquent, moi je ne partage pas cet avis.
Alors je vais donner la parole à Céline au standard qui nous attend depuis longtemps. Bonsoir, vous nous appelez de Haute-Savoie.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel tout d'abord.
Je vous en prie, on vous écoute.
Donc, tout simplement pour donner le témoignage de mon papa qui est décédé il y a 8 mois aujourd'hui. Alors, je dis pas qu'il est décédé de la maladie de Lyme, hein, parce que c'est pas le dernier diagnostic qu'il a eu. Mais en septembre 2013, il avait une grosse plaque sur sa cuisse. Il n'est pas allé voir le médecin parce que c'était un homme très robuste et qui se plaignait pas, qui n'aimait pas les consulter. Sauf qu'au bout de quelques mois, il a commencé à avoir des raideurs, des problèmes d'articulation, différents troubles. Un petit peu, on a pu observer un début de changement de comportement. En mai 2014, il a été diagnostiqué Lyme, donc il a eu 3 semaines de traitement antibiotique par intraveineuse. Il est ressorti de ce traitement, les médecins nous ont dit qu'il était guéri, sauf que nous, nous avons pu observer que son comportement d'un point de vue neurologique, en fait, évoluait de manière très rapide. Lui ne se rendait pas forcément compte, mais si bien qu'en quelques mois, il a perdu beaucoup de repères, beaucoup de facultés, enfin bref, sur beaucoup de choses. Et sa situation a empiré, si bien qu'on a refait des examens. L'été 2015, il était diagnostiqué maladie apparentée à Alzheimer. Donc on l'a laissé de la même manière avec tous ces troubles. Et puis au mois de mars, donc 2016, suite à différentes évolutions, il a été diagnostiqué maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il est malheureusement parti en un mois suite à cette maladie. Et notre questionnement aujourd'hui sera de se dire, même si les médecins qu'on a pu rencontrer nous diront toujours que ce sont des maladies différentes, mais est-ce que la tique n'était pas infestée de cette maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est la maladie de la vache folle, clairement. Et il y a cette errance, il y a cette non-prise en charge après 3 semaines de traitement, et puis toutes les maladies possibles ou pas, en tout cas, mais je pense qu'il y a beaucoup de non-communication et beaucoup de silence derrière cette maladie de Lyme.
Merci Céline de partager ce témoignage avec nous. Christian Perron.
Alors, sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob, il n'y a strictement aucun rapport. C'est des prions, c'est d'autres agents infectieux. Sur la maladie d'Alzheimer, maintenant, il y a des publications scientifiques qui remontent à il y a plus de 20 ans aux États-Unis, plus récemment en Suisse. Encore une autre étude par une nouvelle équipe américaine qui a publié cette année en 2016, où clairement, de nombreux cas de maladie d'Alzheimer sont dus à des maladies de Lyme chroniques. C'est publié, on a trouvé les spiroquettes et les borrelia dans le cerveau. Mais il n'y a pas que l'Alzheimer, il y a d'autres spiroquettes, ça, ces maladies un petit peu en forme de ressort, des cousins de la bactérie de la syphilis, mais qui en a dans la plaque dentaire. On sait qu'il y a un lien aussi statistique entre l'Alzheimer et les dents très gâtées. Et maintenant, c'est une évidence scientifique qui a été publiée dans des meilleurs journaux. Alors, je ne dis pas que tous les cas forcément de maladie d'Alzheimer sont des cas de maladie de Lyme, mais une certaine proportion, c'est certain. Et d'ailleurs, il y a Fabienne Piel qui, dont l'histoire a été rapportée il y a quelques mois dans Paris Match, qui peut en témoigner parce qu'elle a guéri d'une maladie d'Alzheimer grâce à des traitements antibiotiques. Parce que probablement, elle était encore assez jeune quand elle a développé cette maladie. Mais je ne veux pas dire que tous les Alzheimer sont des Lyme, mais il y a une interrogation, on en sortira que par la recherche. Mais il y a quand même 3 équipes de recherche qui ont fait des études sur des centaines de cerveaux sur 30 ans. À chaque fois, ils retrouvent les mêmes résultats, donc on ne peut plus les nier aujourd'hui.
François Bricaire.
Oui, alors là encore, mais je suis en divergence, parce que quand on écoute cette auditrice et la narration de l'histoire évolutive de son papa, c'est difficile de porter un diagnostic. Alors, on ne peut pas, nous, faire des diagnostics à la radio. Mais néanmoins, il y a eu un problème neurologique qui est survenu au décours d'une piqûre d'une morsure de tic. Ça ne veut pas dire qu'il y a une relation. C'est pas parce que vous traversez la rue après vous vous êtes fait mordre par une tic que c'est la tic qui est responsable de vous faire écraser. Donc il y a des tas d'éléments de coïncidence théorique qui font qu'on ne peut pas raisonnablement porter un diagnostic. Deuxièmement, la maladie d'Alzheimer pour le cas de la jeune personne qui en a guéri, c'est que c'était pas un Alzheimer, c'était autre chose. Et moi, j'ai la chance de travailler à l'hôpital neurologique, la Salpêtrière, où il y a les plus grandes neurologues du monde, et qui contestent de façon ferme et la relation entre maladie d'Alzheimer et sclérose en plaques, une relation avec maladie de Lyme.
Et pourtant, il y a beaucoup de malades atteints de sclérose en plaques qui guérissent avec des traitements anti-infectieux. L'Alzheimer, c'est prouvé, on ne peut plus revenir dessus. Il y a quand même des publications scientifiques de 3 équipes différentes dans le monde sur des centaines de cerveaux qui le démontrent formellement. Et les neurologues rigolent en disant c'est pas sérieux. On ne peut pas rester comme ça. Il faut au moins le confirmer dans d'autres études.
Véronique.
Alors justement, question, quel est l'état de la recherche scientifique sur Lyme? Est-ce qu'on a suffisamment de publications pour que ce soit crédible le lien entre Lyme et certaines maladies?
François Bricaire.
Alors, à mon avis, non, nous n'avons pas assez de recherches. Alors ça, je suis complètement ouvert. Au lieu d'affirmer un certain nombre de choses qui sont des affirmations gratuites et qui entraînent des confusions et des prises en charge de mauvaise qualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaudrait mieux que des études sérieuses, scientifiques soient faites, ce qui n'a pas été fait. Et les publications dont Christian Perron évoque l'existence sont des publications douteuses.
Mais pourquoi il n'y en a pas plus? C'est pas un Alors, sujet qui intéresse, on voit qu'il intéresse beaucoup de monde.
Vous avez raison, c'est compliqué de faire des études sérieuses. Vous voyez, c'est un peu difficile à expliquer, mais normalement, il faut faire des études comme on dit, comparative, c'est-à-dire que un groupe de malades dont on est sûr qu'ils sont malades, versus un autre groupe, de prendre des groupes de malades à qui on va donner un traitement antibiotique dont on connaît l'efficacité, versus ce qu'on appelle des placebos, et tout ça doit être contrôlé, rien que pour les aspects purement cliniques. Et c'est difficile. Et c'est peut-être là qu'il faut travailler. Et c'est peut-être là les centres qui étaient évoqués en début d'émission.
Ah, je voulais dire toutes ces études.
Alors, Christian Perron et puis Anne-Claire au standard.
Toutes ces études ont été faites. Il y a des études qui ont démontré le bénéfice des antibiotiques par rapport à un placebo. Pour l'Alzheimer, des études scientifiques ont été faites comparant des cerveaux de témoins, des cerveaux d'Alzheimer, malheureusement de gens décédés. Donc tout ça a été fait dans les règles de l'art. Et effectivement, depuis 30 ans, malheureusement, il y a eu zéro recherche, parce qu'on avait déclaré que la maladie de Lyme est une maladie imaginaire, et que dans tous les pays, il n'y avait aucun budget. Moi-même, depuis 20, on me dit quelquefois, vous n'avez pas assez publié. J'ai quand même publié, mais pas assez, effectivement. C'est quand je demandais un projet de recherche et des financements, on se moquait de moi en disant, on ne donne pas d'argent pour une maladie imaginaire. Et c'est ça qui est scandaleux, parce que on ne peut pas laisser tomber ces malades qui sont en souffrance profonde. Moi, si je me bats, et si j'écris ce livre, c'est pour les malades.
Anne-Claire, bonsoir. Vous nous appelez de Grenoble et je crois que vous êtes en colère.
Un petit peu. Bonsoir, oui.
Bonsoir.
Parce que, oui, bonsoir à tous. Merci pour cette émission. Moi, je suis kiné. Je soigne beaucoup de gens qui ont des fibromyalgies, donc qui ont des symptômes assez proches de ceux de la maladie de Lyme. J'ai une patiente qui se doute vraiment, qui a très peur d'avoir la maladie de Lyme. Et c'est des gens qui sont vraiment, mais vraiment en souffrance. On leur dit sans cesse que c'est dans leur tête. C'est totalement irrespectueux pour ces pauvres gens, mais vous imaginez pas. Et moi, je les vois, je suis obligée de prendre des séances pendant une heure de les soigner, on arrive péniblement à les soulager. C'est vraiment des efforts considérables pour ces gens de même de venir au cabinet et dire que ça sert à rien de leur faire faire les tests, mais je trouve que c'est vraiment pas respectueux pour ces gens. Imaginez, on leur dit que c'est dans leur tête, alors qu'ils souffrent, ils ont des vertiges, ils ont des maux pas possibles. J'ai une de mes patientes qui doit entendre l'émission, qui doit se reconnaître pour l'instant, mais on bondit quand on entend ce manque de considération pour les gens. Et merci à ce docteur qui a écrit ce livre. Excusez-moi,
Christian Perron. C'est Christian Perron.
Christian Perron. C'est vrai que moi j'aimerais lui envoyer tous mes patients qui ont la fibromyalgie. C'est puis les thérapeutes. Enfin voilà, quand on arrive un petit peu à les soulager, j'ai la chance d'arriver un petit peu à soulager ces gens. Mmh. On souffre un peu avec eux et voilà, un peu de compassion et essayez un petit peu de vous mettre à la place de quelqu'un qu'on envoie en hôpital psychiatrique alors qu'il a rien de psychiatrique et qui pourrait être soulagé par des antibiotiques. Mais on peut au moins essayer, quoi. Ça va pas tuer la médecine française de se pencher et d'avoir un peu de considération pour ces gens-là. Voilà.
Merci, merci Anne-Claire. Merci pour votre appel. Nous devons malheureusement conclure. Un peu de respect, François Bricaire, disait Anne-Claire. Que répondez-vous ?
Je réponds que nous faisons le maximum. Quand on reçoit quelqu'un qui vient en nous disant j'ai probablement une maladie de Lyme, je crains avoir une maladie de Lyme, j'espère les recevoir avec compassion, écoute et prise en charge. Mais ça n'est pas leur rendre service que de leur dire qu'ils ont un Lyme alors qu'on est persuadé de l'inverse. Et par conséquent, notre devoir est d'aider les malades.
Un mot, Christian Perron.
Je dirais que c'est la seule maladie où pendant 30 ans, on a refusé aux malades le droit de s'exprimer sur leur maladie, alors qu'on sait que dans l'infection à VIH, le virus du sida, depuis le début, les malades ont été inclus dans la réflexion, dans la recherche. Et là, on leur a dit, vous n'êtes pas malade, on les envoyait en psychiatrie. Donc c'est pour moi une honte absolue. Il faut remettre les malades au cœur de la recherche et de la préoccupation politique, parce que là, les politiques peuvent jouer un rôle majeur.
Merci à tous les deux. Christian Perron, La vérité sur la maladie de Lyme chez Odile Jacob. François Bricaire, chef du service maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci Véronique Julia, spécialiste santé à France Inter.